Donc, deux initiatives à l'honneur ce soir. On entendra le témoignage d'Elsa, que vous connaissez déjà peut-être, puisqu'elle fait partie de la team des équilibristes récurrente. Et donc, Elsa, c'est une amarrée depuis quasiment les débuts de l'amarre. Elle est hypnothérapeute et elle propose des ateliers de communication non violente à l'amarre. Donc, elle va nous parler de son expérience à la fois d'hypnothérapeute et à la fois de médiatrice en communication non violente.
Donc, je suis hypnothérapeute à Toulon, ailleurs et de temps en temps à Paris. Et surtout, j'ai envie de dire partout dans le monde, parce que grâce à Internet, je fais aussi des séances en visio. Car oui, c'est possible d'hypnotiser les gens à travers un écran.
Oula, voilà. J'ai envie que tu m'en dises plus, parce que là, comme ça, je ne sais pas si je te crois. Tu...
Alors, on pourra faire un test, si tu veux, après l'émission. C'est vrai que le propre de l'hypnose, si on va tout de suite dans le cœur du sujet, c'est un retour à soi. Et donc, j'invite les personnes à voyager dans leur monde intérieur, parce que je sais que moi, je suis vraiment là en tant qu'accompagnatrice pour les aider à accéder à leurs ressources et pouvoir soit sortir d'un problème, évoluer, voire aller encore mieux, parce qu'il y a parfois cette demande. Je reçois principalement beaucoup de personnes qui sont dans l'anxiété, qui peuvent être, qui traversent des moments difficiles, ou qui sont dans des addictions, mais qui sont souvent le symptôme d'un stress plus profond. Et donc, l'hypnose répond vraiment à ça, dans le sens où la personne est agissante. Et c'est elle qui vraiment est menée par sa partie inconsciente, qui est finalement une réserve insoupçonnable de solutions. Et c'est finalement la manière la plus évidente, quand on vit une séance d'hypnose, de retrouver du choix et du contrôle. Et j'insiste là-dessus parce que souvent les gens ont peur de venir à une séance d'hypnose parce qu'ils vont se dire « Oh là là, je vais perdre le contrôle, ça va être horrible et puis vous allez rentrer dans mon esprit » et c'est pas du tout ce qui se produit. Car je ne suis pas Madame Irma, j'ai aucun pouvoir de lire dans les pensées des personnes, mais par mon positionnement, je leur permets d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'ils vivent intérieurement et de ce qui les anime. Et donc, l'inconscient, c'est cette part de nous qui s'exprime par les émotions, les ressentis et par notre imaginaire. Et très souvent, le réflexe qu'on a, surtout nous, Français, élevés par Descartes, la raison, la rationalité, fait que souvent, on essaye de résoudre les choses mentalement. Mais c'est plutôt en plongeant à l'intérieur, dans nos ressentis et en accueillant nos émotions, que là, on va pouvoir trouver le fil qui va nous permettre de transformer ce qu'il y a besoin et de nourrir les besoins qui se font entendre par les symptômes typiquement d'anxiété ou de stress.
On en parlait un tout petit peu juste avant l'émission. Il y a la notion justement de se sentir mieux, avoir accès à un meilleur bien-être de soi. Et on parlait également de développement personnel et de est-ce que finalement on se développe soi-même à travers ces pratiques, ou est-ce qu'on développe sa santé. On a parlé aussi un petit peu de ce grand mot un peu à la fois fourre-tout et qui peut un peu faire peur aussi, comme le disait Isabelle, de santé mentale. Et donc, l'hypnose, j'imagine, est un guide à la fois de tout ça et permet d'accepter une partie de soi qu'on connaît pas finalement, mais moi en même temps ça m'apporte quelque chose en me disant mais cette partie là de moi je la connais pas, j'ai l'impression que je la connaîtrai jamais puisque je sais pas comment dire, mon inconscient je vais jamais lui parler frontalement en lui disant bonjour mon inconscient, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui. c'est pas forcément simple d'accès comme ça au premier abord, parce que justement ça fait appel aussi à cette partie irrationnelle des choses.
Alors, ouais. Ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être pas ta conscience qui va parler directement à ton inconscient, mais c'est plutôt te mettre à l'écoute de ce qu'il est en train de te dire. Par exemple, dès que tu imagines quelque chose, tu sais que c'est ton inconscient qui s'exprime. Quand tu as une émotion, c'est ton inconscient qui s'exprime, parce que c'est pas des choses que tu contrôles. Idem, un ressenti. C'est ton inconscient qui parle. Et donc, c'est plus facile que ça en a l'air. C'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu une séance d'hypnose, c'est un peu comme si je vous parlais de musique et que vous n'en aviez jamais entendu. Mais en même temps, très souvent, la première expérience, c'est à la fois déroutant, parce qu'en effet, il peut se passer une remise en mouvement, des choses qui nous viennent, auxquelles on n'aurait pas pensé, justement, qui vont bien au-delà de la pensée. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est cette phrase d'Einstein qui dit que la connaissance est limitée, alors que l'imaginaire englobe le monde entier, suscite le progrès et stimule, je l'ai mis dans mes notes, parce que j'étais sûre que j'allais en oublier un bout, et suscite l'évolution. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dès qu'on fait appel en fait à cette part de nous, il y a des choses qui vont se remettre en mouvement. Et souvent, enfin, j'avais un formateur qui disait, en hypnose, lors d'une séance, on pleure, on change, on rit. Et c'est exactement ce qu'on vit. Et d'ailleurs, ça tombe bien, parce que là, en plus, on a deux personnes qui ont ce talent de susciter le rire. Mais c'est vrai que le rire, par exemple, c'est extrêmement recadrant. Parfois, juste en lançant une blague, on va avoir une prise de conscience derrière. Donc, on a fait une émission sur le rire, là. Je reviens sur l'émission sur l'hypnose, parce que c'est plus mon domaine. Mais c'est vrai qu'il y a, cette idée de traverser ces émotions. Donc, en fait, cette part-là de toi, tu la connais. Tu vis avec en permanence. On est mis en mouvement en permanence par notre inconscient. Avant que ça arrive à notre conscience, c'est dans notre inconscient qui est la source de tout ce qu'on vit, en fait. Donc, autant faire appel à la partie qui engendre ce qu'on vit quand il y a un problème. Mm-hmm. Parce qu'on sait que mentalement, on a beau être expert de son problème. Souvent, j'ai des gens qui viennent, ils ont fait 15 ans de psychanalyse. Ils savent exactement où ils en sont, pourquoi ils en sont là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, tout l'historique. Sauf que ça n'a pas bougé d'un iota. Donc, c'est la preuve que je suis en train de dire que je voudrais surtout prendre des précautions, parce que je trouve ça très intéressant, la psychanalyse. Mais pour autant, là où on sait que les choses vont pouvoir se remettre en mouvement, c'est quand on les vit de l'intérieur, quand on les ressent et quand on retrouve, en fait, quand on se relie à ce qui nous anime profondément. C'est de plus en plus, c'est ça que je vois de ce qui se passe dans les séances. Et ça, ça fait le lien avec la communication non violente.
Mm-hmm. Moi, j'avais juste une question à poser à Elsa, justement par rapport à Cyriade, par rapport à cette question de l'hypnose, parce que moi, j'avoue que c'est comme l'inconscient, c'est quelque chose pour moi de très mystérieux, et j'aime bien cette idée de mystérieux aussi, de mystère, de pas toujours tout découvrir. Mm-hmm. Mais je voulais savoir au niveau de cette hypnose, est-ce que c'est simplement une technique? Qui est accessible à tout le monde, parce que j'ai discuté avec justement des personnes qui sont devenues hypnotiseurs, entre guillemets, comme ça, quasiment du jour au lendemain. Alors en discutant avec eux, on m'a dit simplement 6 mois de formation, et puis on peut devenir hypnotiseur, il y a une méthode, etc. Donc, moi j'étais très étonné, parce que voilà, est-ce que tu me confirmes ça? Est-ce que c'est simplement une technique qu'on peut acquérir, que n'importe qui, entre guillemets, peut acquérir, ou c'est autre chose?
Alors c'est à la fois une technique. C'est l'art de la suggestion, donc tu vas apprendre à faire des suggestions pour emmener les personnes, dans le cadre d'une thérapie, à faire un retour sur elles-mêmes, et puis des suggestions qui vont évidemment aller dans le sens, quand on a une éthique de thérapeute, qui va aller dans le sens de la personne, qui va respecter ses valeurs, qui va vraiment l'accompagner du point A au point B où elle a envie d'aller. Et en même temps, dans ces écoles, en effet, on apprend la technique, mais on apprend à faire, à emmener les gens sous hypnose, mais ça n'en fait pas des thérapeutes. Et c'est là où parfois ça peut être un petit peu un petit peu délicat parce que il faut bien se renseigner par rapport aux écoles. Moi, j'étais dans une école qui était à Paris, qui était très bien. Enfin, voilà, je peux rendre hommage à mes professeurs. J'étais à l'Arche parce qu'il y avait une éthique réel et on a beaucoup travaillé sur la posture, mais j'ai envie de dire c'est pas en sortant de l'école que je suis devenue vraiment thérapeute. C'est tout ce que j'ai fait à côté, c'est la manière dont je me nourris, dont je m'accompagne moi-même, qui fait que je me sens légitime pour accompagner des gens. Et c'est un chemin de vie. Il n'y a pas un jour où on se dit pas que ce qu'on vit, ça va pouvoir, non pas pour être, comment dire, on est dans l'idée d'être en lien avec l'autre. Donc forcément, ça nous renvoie aussi à où on en est soi. Et on est dans un mouvement perpétuel de travail aussi sur soi. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais parfois mes clients m'apprennent des choses et me nourrissent et me font évoluer et ça fait partie du métier. Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question? Parce que...
Oui,
oui.
Merci.
Elsa, tu voulais aussi nous parler de communication non violente, puisque tu es médiatrice en communication non violente. Est-ce que déjà pour les novices sur ce sujet, peut-être autour de la table ou bien qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est la communication non violente ?
Alors, la communication non violente, c'est une méthode qui a été développée par Marshall Rosenberg, qui est décédé maintenant, mais qui était un psychologue vraiment... merveilleux. Et on peut d'ailleurs écouter, il y a une sur YouTube, vous pourrez trouver une conférence de 3 heures qui est traduite, où là, moi, quand j'ai écouté ça, il m'a littéralement hypnotisée, il m'a happée, et j'ai tout de suite eu envie de me former. Donc, c'est l'art du dialogue pour être en lien avec soi et avec les autres. Et ça commence avec soi. Parce que souvent, les gens se disent « super, je vais avoir une technique pour pouvoir être, voilà, de pouvoir obtenir éventuellement ce que je veux de l'autre, mais que ça se passe en douceur, ça va être une super stratégie. » Ce n'est pas du tout l'intention. L'intention, c'est de s'accueillir soi et de pouvoir voir où on en est, d'être... De quitter le monde du jugement, de sortir des jugements et d'être vraiment dans cet accueil empathique. Et plus il y a cette ouverture qui se fait, cette ouverture de cœur, hein, parce que ça se passe vraiment au niveau du cœur qui se fait, plus il y a cette facilité à pouvoir accueillir l'autre là où il en est. Et bien sûr, c'est plus un processus qu'un outil. J'aime vraiment pas en parler comme d'un outil parce que c'est un processus qui s'enclenche. Une fois qu'on apprend à faire cet accueil de soi-même, et donc on est tout à fait à même d'aller vers l'autre et surtout de se retrouver en conflit avec l'autre et d'arriver à désamorcer le conflit. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de rester au niveau du mental, au niveau de la raison, des opinions qui peuvent s'entrechoquer, et on le voit, tout ce qu'on a pu traverser ces derniers temps, de polarisation, les pour, les contre, les pros, enfin bref, vous savez très bien de quoi je parle, je pense. On est suffisamment secoué par rapport à ça aujourd'hui. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en formation, on a fait un exercice sur, d'un côté il y avait les vax, de l'autre il y avait les anti-vax, parce que dans toutes nos familles on était confrontés à ça, d'un côté ou de l'autre, de toute façon c'était terrible, ça finissait en pugilat, et on a réussi à pouvoir rentrer en dialogue avec une personne qui était donc d'une opinion différente. Et si ça marche pour ça, ça marche pour tout en fait. Bien sûr, bon, voilà, ça a ses limites dans le sens où parfois on est confronté à un non catégorique. La personne n'est pas du tout prête à lâcher ses opinions et c'est OK. La seule différence, c'est que maintenant, je le vis mieux. Quand je me prends un mur, je le vis mieux. Je ne le vis pas comme quelque chose qui va m'effondrer ou qui va me rendre triste, mais plutôt comme, ce n'est pas le moment et j'accepte. Ou même, ça me rend très triste, mais je vais savoir m'accompagner là-dedans. Voilà.
Mais du coup, tu disais que tu faisais de la formation, la médiation, en fait. Et oui. Ça consiste en quoi, dans la CNV, de faire la médiation ?
Alors, la médiation, ça sert pour notamment les couples. Principalement, la demande vient des couples qui viennent me voir et qui traversent un moment difficile, qui n'arrivent plus à se parler. Ça peut évidemment être avec un collègue ou ça peut se retrouver aussi en entreprise. Et ce qu'il y a de, je dirais, de miraculeux dans cette approche, c'est que le médiateur est vraiment là pour non pas apporter des solutions, mais se dire, tiens, quels sont les besoins qui sont derrière ? Quels sont les besoins qui font que, pour le moment, les personnes n'ont pas été capables de se rejoindre ? Forcément, elles ont des besoins qui ne sont pas nourris, qui, du coup, engendrent le conflit. Mais le fait d'être en position de facilitateur, de pouvoir écouter et d'accueillir l'autre dans ses besoins, va changer le regard de la personne qui est en face, parce qu'elle va se dire « Ah !» Parfois même, elle découvre que le besoin peut être le même que ce qu'elle a, mais elle se dit on sort vraiment du champ du mental et on s'aperçoit que derrière cette attitude ou ce comportement que je vais par exemple, pas aimer chez l'autre, eh bien, il y a un besoin qui est en train de s'exprimer. Et à partir du moment où je suis capable de reconnaître son besoin, il y a déjà quelque chose qui redescend dans le conflit. On n'a plus du tout envie de sortir les armes parce qu'on est quelque part déjà désarmé parce qu'on se dit, bah oui, en fait, son besoin, il est totalement légitime. Et donc, ça crée à nouveau du lien et on chemine comme ça, pas à pas, pour arriver à ce que les personnes arrivent à nouveau à se regarder. Alors, quitte à ce qu'elles décident de se quitter, hein, parce que ça peut aller jusque-là, mais au moins, elles vont le faire en conscience et d'une certaine manière, en reconnaissant la légitimité de chacun. Voilà.
Si je comprends bien ce que tu essaies de nous dire, c'est que le conflit bien résolu, ça permet d'accéder à une meilleure qualité de relation et quelque part dans une intimité plus profonde de la relation à l'autre. Reconnaître que moi, je suis différent, que l'autre est différent, et nous avons le droit d'être pas pareil, et nous pouvons quand même coexister ensemble.
Exactement, et c'est ça qui est beau. C'est d'arriver à ça, à ce moment où, justement, on n'est pas... Moi, par exemple, j'ai une amie, on n'a pas du tout les mêmes opinions politiques, et parfois, c'est vraiment chaud, il se trouve qu'on s'est formé ensemble à la CNV. Alors, c'est à chaque fois, on se dit « Youpi, on va pouvoir travailler ». Et en fait, c'est tellement beau de voir qu'on continue de s'aimer malgré ça, malgré le fait qu'il y a des moments de tension. Et oui, finalement, ça renforce le lien, ça approfondit le lien. Et en ça, ça va tout à fait dans le thème de l'émission qui est comment arriver à vivre ensemble, Donc la communication non violente, oui, c'est précieux pour ça.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut pratiquer la communication non violente avec tout le monde ? Dans le sens où, par exemple, si on le fait dans le cadre d'une résolution de conflit où les deux personnes sont prêtes à utiliser, enfin à pratiquer la communication non violente, donc les deux personnes sont volontaires pour le faire. Du coup, j'imagine qu'en tout cas, il y a plus de chances que ça marche, que ça s'apaise, que les conflits redescendent un peu. Et en même temps, je me dis, est-ce que moi, solo un peu, je peux pratiquer la communication non violente dans la rue, quelque part où je sais pas, quelqu'un me je sais pas, enfin je quelqu'un m'embrouille dans la rue et je suis super énervée et en fait voilà, il y a une embrouille avec quelqu'un d'inconnu qui ne connaît pas du tout la communication non violente et est-ce que je peux l'utiliser à ce moment-là, enfin la pratiquer à ce moment-là?
C'est possible dans du moment que le plus important en fait, c'est l'intention. Si toi, alors même que tu, y a une personne qui te dit une phrase vraiment difficile à entendre et qu'elle ne connaît rien à la communication non violente, mais que toi, tu as l'intention de la rejoindre là où elle est, c'est-à-dire de se dire que derrière ce qu'elle est en train de te balancer, par exemple un jugement, que tu sois capable de te dire que en dessous, il y a un besoin qui s'exprime de manière tragique. C'est ce que disait Marshall Rosenberg. Hein. En fait, tout vient de là, c'est-à-dire qu'on est dans une expression tragique de nos besoins. Et une fois que... Quand tu es capable de faire ce pas de côté, évidemment, ça s'apprend. Et je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est possible.
Non, je pense que ce n'est pas si facile que ça. Ça dépend des circonstances, parce qu'il y a quand même des fois... Enfin, en vous écoutant, parfois, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, parce que je suis quand même foncièrement d'accord avec vous. Hein. Mais il y a quand même parfois où je me dis, est-ce que la communication non-violente, du coup, ne nous permet pas de... quelque part un peu tout excuser, finalement, de dire, bon, bah, lui, il m'a mal parlé, oui, mais il m'a mal parlé parce qu'en fait, il avait tel besoin, et etc. Mais en fait, foncièrement, il m'a mal parlé. Et donc moi, ce que ça génère chez moi, c'est de la colère. Et donc, la première réaction, c'est de aussi mal lui parler. J'entends bien que la communication non violente vient donc là pour dire, bah non, on va pas réagir comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... le fait de revenir toujours aux besoins, c'est de se dire, bon, bah, du coup, la réaction, elle est normale parce qu'il a un besoin. Mais en fait, il y a des réactions de personnes qui sont quand même vachement frustrantes et qui font mal, quoi. Donc, est-ce que tu as une réponse à ça ?
Oui, j'ai une réponse parce que la première clé magique, évidemment, c'est tout un processus. Et là, je vais un peu vite en besogne en allant d'une manière très schématique sur les besoins. Mais la première chose, c'est l'auto-empathie. Il t'arrive un truc comme ça, t'es pas en capacité d'aller parler à l'autre parce qu'il t'a mal parlé, ça te rend, t'es en colère, t'es tout à fait... Le premier pas, c'est vraiment d'accueillir cette colère et de voir où on en est par rapport à ça. Peut-être ça va être de l'exprimer, de dire à l'autre, écoute, là vraiment, je suis vraiment en colère et ça me met en colère d'être en colère parce que je me suis formée à la CNV et je vois que j'en suis là. Et en même temps, il y a une part de moi qui aimerait tellement te rejoindre là où tu en es parce que je me dis que si tu me dis ça, c'est qu'il y a autre chose derrière que j'aimerais comprendre. Voilà, ça c'est un exemple rapide, tu vois, de comment ça peut se faire. C'est ce qu'on appelle la girafe de rue, parce que la girafe, c'est l'animal totem, l'animal emblématique qu'a choisi Marshall Rosenberg pour développer en fait cette part de nous. Il a pris le symbole de la girafe parce que c'est le mammifère qui a le plus grand cœur dans la création et que voilà, on est et puis qui a un long cou qui lui permet d'avoir de la hauteur par rapport aux événements. Mais là-dessus, il y a un très bon livre, c'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dossenbourg, qui est un formateur. Et justement, c'est à l'encontre de devenir un béni oui-oui, quelqu'un qui dit amen à tout. Ah non, mais vas-y, frappe-moi, j'en demande. C'est pas du tout ça. Hein. On est même capable de dire non. Enfin, c'est vraiment, ça commence par l'auto-empathie. Et encore une fois, d'abord, on est sur soi avant d'aller vers l'autre. Et il y a une manière de pratiquer la CNV. La communication non violente, c'est déjà avec soi, parce que je sais pas vous, mais moi, dans la journée, il y a quand même pas mal de moments où parfois je m'en veux, où je me parle mal, dans mon dialogue intérieur. Et donc, ça se travaille déjà en soi, en fait.
Merci pour tes apports. En fait, il faut aller aux ateliers de CNV d'Elsa, qui se passent parfois à la mare, mais qui peuvent aussi se passer en dehors de la mare,